illustrer.
Pour le service de beaucoup d'âmes, hein. Dans d'autres pays qui n'ont pas accès aux églises et tout ça, il y a pas mal de personnes après qui vont sur notre site, dans des pays où il y a l'oppression. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Ici, nous voyons que la Tsunamite a un profond désir de saisir son bien-aimé, d'être avec lui. Elle était hors d'elle-même. Quand il me parlait, les amis, quand on offre un évangile à quelqu'un, quand on parle de Jésus à quelqu'un qui ne l'a jamais entendu, il peut être touché au point d'être hors de lui. Quand nous sommes venus ici, sur le chemin, je vous l'ai déjà dit, à Yvan-les-Bains, sur le trottoir, on mangeait, sur le banc, on mangeait nos tartines. Et j'avais prié pour que notre chemin ne soit pas bêtement du tarmac ou des forêts, de la nature. Partout où on est là pour le Seigneur. Et partout, le Seigneur est là. Donc, j'étais là, et puis après, tout d'un coup, il vient quelqu'un avec un panier, et ma femme lui dit, vous avez un beau panier. Ah, mais c'est moi qui l'ai fait. On a causé. Et ce jeune homme, tout de suite, 30 ans, nous a dit, je cherche Dieu depuis 4 à 5 ans. Je me remets en question. Je lis le Nouveau Testament. Et il est très seul. Il ne connaît pas de chrétien. Et on voyait bien qu'il ne comprenait pas bien. Et alors, on lui a pris tout de suite Ésaïe 53, on lui a lu, on lui a commenté, parce qu'on voyait vraiment que c'était un désir profond chez lui. Et il opposait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça, c'est l'influence du catholicisme. Hein? Et alors, maintenant même des énergies positives et tout le reste, c'est la même chose. Alors, pratiquement, on lui a montré que toutes les racines de la foi chrétienne étaient dans l'Ancien Testament. Ésaïe 53 surtout. Et pensez à l'eunuque d'Éthiopie sur son char, tout d'un coup, Dieu envoie Philippe pour lui expliquer le texte. On lui a donné quelque chose qui est dans la parole, eh bien, on voyait qu'il était touché. Bien sûr, j'ai promis de rechercher où il y avait des chrétiens dans la région. J'ai déjà trouvé. En venant ici, j'ai discuté. Cherchais quelqu'un qui était dans le sud de la France, qui depuis 35 ans s'est mis pas loin de là, en espérant qu'il y aurait un jour des chrétiens dans la région. Alors j'apprends ça, moi, en venant ici le premier jour, je vais prendre des contacts et je vais le mettre dans... Vous voyez ? Et puis Timmy, revoir et... Mais j'ai ouvert à mon bien-aimé. Mon bien-aimé s'en est allé. Le jeune homme que nous avons rencontré n'a pas l'impression que Dieu vient vers lui. Il a l'impression que Dieu le fuit, qu'il est disparu. J'étais hors de moi. Donc il a une passion, il a une soif. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Eh bien, le fait qu'on était sur le banc, qu'on lui a parlé, Dieu a commencé à lui répondre. Le fait qu'il avait un évangile chez lui, Dieu a commencé à lui répondre. Il faut lui montrer qu'il n'est pas seul. Et donc, faites attention dans votre vie. Les cadeaux les meilleurs, c'est toujours de donner un verset biblique, un petit évangile à quelqu'un. Moi, à 16 ans, c'est ça qui a changé ma vie. Si ma vieille tante avait eu peur de mon père et de ma mère, elle n'aurait jamais donné le Nouveau Testament et je n'aurais jamais compris que je devais me tourner vers Jésus. Non, il faut faire attention, soyez sûrs, il y a des gens dont le désir est profond vers le Seigneur Jésus. Mais si vous les laissez sans leur donner Jésus, vous n'avez pas fait votre vocation. On viendra à d'autres textes après. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, versets 1 et 2. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Vous voyez ici que les personnes qui entourent la Tsunamite, pour finir, sont allumées d'un esprit de connivence. Elles prennent à cœur la souffrance de la Tsunamite. Elles prennent à cœur les désirs de la Tsunamite. Quand vous allez vraiment vers le Seigneur, il peut arriver que quelqu'un qui vous aime bien, quelqu'un qui vous fréquente, se rende compte que vous changez et que vous avez trouvé quelqu'un très précieux dans votre vie, et il a envie de vous encourager. Il reconnaît quelque chose de bon, là, il ne comprend pas vraiment. Il faut faire attention autour de vous. Quand vous avancez dans la vie avec le Seigneur, il ne faut pas être individualiste, individuel. Apprenez à regarder alentour de vous quelles sont les personnes que Dieu a mis alentour de vous. Apprenez ça. C'est pour ça que j'ai demandé hier que chacun prie les uns pour les autres et qu'on prenne du temps. Qu'on prenne du temps. Dieu veut faire un corps. Il veut réunir toutes ses brebis en un seul troupeau. Un seul troupeau. N'oubliez jamais que le plan de Dieu est d'abord le nôtre. Le plan de Dieu devient le nôtre. Ce n'est pas notre plan qui devient le plan de Dieu. Hein. Alors, ici, où est allé ton bien-aimé ou la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous chercherons avec toi. Vous pouvez toucher des cœurs et les emmener vers le Seigneur sans vous rendre compte. Parce que vous êtes en train de changer, parce que vous avez en vous le feu de l'amour pour le Christ. N'ayez pas peur. Ceux qui vous regardent ont compris le jour que le Seigneur Jésus est venu dans votre vie, même s'ils ne le disent pas. Faites confiance à l'œuvre de Dieu et surtout, laissez-les parler. Laissez parler et vous allez voir que d'autres personnes vont vers le Seigneur souvent alors qu'on pense qu'il n'y a personne qui va bouger. Je voudrais vous donner l'espérance que la foi engendre la foi. Je vous donnais la certitude qu'une lumière à travers quelqu'un, même si c'est un vase aux parois épaisses, la lumière passe. Vous connaissez 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 8. Hein? Et Dieu qui a dit que la lumière brille, a brillé sur la face de Christ, afin que nous connaissions la gloire de Dieu sur la face de Christ. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous portons ce trésor comme dans des vases. Des vases de quoi? De cristal? Non. Parois épaisses. Apparemment, nous sommes incapables d'émaner de la lumière. Même le ver luisant pendant la nuit, quand il circule, il ne sait pas qu'il brille. Il a pris la lumière pendant la journée, il la donne pendant la nuit. Mais le ver luisant retransmet la lumière. Le chrétien, même s'il ne le sait pas, les enfants des ténèbres le voient. Ils voient qu'il y a autre chose. Donc il faut savoir que quand on est au Seigneur, il y a quelque chose qui est donné aux autres. On n'est pas tout seul pour soi chrétien. Ok ? 6, verset 11. Je vais commencer au verset 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière ? Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. La personne qui est travaillée par le Seigneur, et comme ce jeune homme que nous avons rencontré sur notre chemin, puis tout d'un coup une dame qui habite à côté qui sort et qui tourne alentour de nous. Pratiquement, bon, j'ai repéré l'adresse, j'étais à sa porte, je vais écrire. Et puis essayer aussi qu'elle aille près de cet homme. Elle est catholique depuis je ne sais combien d'années, elle s'est mise à pleurer quand nous voyons. Pourquoi? Moi je pense, tellement elle est malheureuse d'être sans Christ. Elle a une religion mais elle n'a pas Christ. Vous savez une noix, parfois vous les ouvrez, il n'y a rien dedans, parce qu'il y a un petit verre qui est rentré et elle est vide. Puis il y a des noix, vous cassez la coquille, il y a une bonne noix à manger. Ben, il y a des coquilles de noix sans noix des fois. Beaucoup de gens sont comme ça avec leur religion. Et bien, ces gens-là, parfois, pleurent. Ils attendent que quelqu'un passe sur leur chemin. Moi, j'ai attendu. J'ai connu le Seigneur en lisant l'Évangile à 16 ans, progressivement, puis j'ai été zélé. Je voulais servir, je ne connaissais rien d'autre que... Alors que j'étais plutôt athée, laïque, je suis devenu catholique parce que j'aimais Jésus. Et puis, qu'est-ce que j'ai été? J'ai été déçu. Pendant 26 ans, j'ai essayé que des gens viennent au Seigneur, j'en ai pas vu un qui était né de nouveau. J'ai dit au Seigneur, à 42 ans, « Seigneur, si je meurs demain, il n'y a personne qui est venu à toi, qui t'aime et qui va continuer à te faire connaître. Je te demande pardon, mais je n'y comprends plus rien, j'ai tout raté. » Et le verset 2 Corinthiens 13:8, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons de puissance que dans la vérité. Ce jour-là, en lisant ce verset-là, j'ai compris. Retire tout ce que tu as reçu du catholicisme, garde la Bible. Retire. Tout ce qu'on a retiré, prends-le. Tout ce que tu as mis de trop, retire-le. Garde la parole de Dieu intégralement. Et tu auras de la puissance. Dans mon âme, je savais qu'après je pouvais amener des personnes au Seigneur, qu'elles seraient nées de nouveau. Et c'est ce que j'avais désiré depuis si longtemps. Mais j'avais un héritage falsifié, qui n'apporte pas la vie éternelle, qui n'apporte pas la nouvelle naissance aux personnes. Faites attention, on peut être évangélique, avec des traditions, avec des manies, des habitudes, et être comme ça, hein. C'est pas que chez les catholiques qu'il faut regarder, hein. Ah oui, c'est trop facile, les autres sont comme ça, nous c'est les bons. Ça, c'est foutu d'avance. La présomption, l'esprit de présomption, c'est la ruine de l'âme, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que cette personne a une démarche active. Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. C'est une démarche active, c'est une démarche vers la vie, c'est une démarche vers le bonheur de la vie. C'est clair que le jeune homme-là cherche depuis longtemps, il va vers la verdure, il va vers la vie. Mais on voit bien qu'il y va à tâtons parce qu'il a un bandeau sur les yeux. Le bandeau du péché. Au chapitre 3, verset 5, je ne donne pas les explications sur le cantique des cantiques, c'est tout à fait autre chose. Hein. Moi, je pense que la tsunamite, c'est Jérusalem, et toutes les filles qui l'entourent, c'est les villes, les cités de Jérusalem. Il y a deux chœurs, d'ailleurs, qui chantent. Hein. Et que le bien-aimé, c'est le Christ, hein, qui viendra à Jérusalem. L'image du Christ, vous l'avez au chapitre 5, au verset 9 et suivant. Si vous voulez voir, c'est une description qu'on retrouve souvent dans l'Apocalypse et dans Ézéchiel. Alors, chapitre 3, verset 5, je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est qui est-ce qui dit ça? C'est le prince, c'est le bien-aimé. C'est la même chose avec Jésus. Quand on a rencontré ce jeune homme et cette femme-là, le temps qu'on cassait la graine, il faut qu'ils aient le réel amour de Christ. Parce qu'il y a des gens qui font semblant, hein. Il y a des gens, il y a des tordus. Il y a même des gens qui sont animés de Satan qui vont vers Jésus. Rappelez-vous que dans la synagogue de Nazareth, et Capernaum, il y en a qui ont dit « Tu es saint, tu es le véritable, tu es le fils de Dieu ». Et Jésus les fit taire, les menaça. Parce que Satan peut faire le cirque dans une église. Satan peut faire venir des gens qui prient très bien. Je vous fais peut-être peur, mais moi, dans notre église, il est arrivé souvent des gens comme ça. J'ai toujours demandé au Seigneur d'avoir le discernement. La vraie brebis et la fausse. Pourquoi? Mais parce qu'on a vite fait de ruiner une église, hein. Si le conducteur ou ceux qui ont la responsabilité confondent les carottes et les choux-fleurs, ça ne va plus. Hein? C'est pas facile, il faut prier. Mais ce qu'il y a, c'est arrivé. Un jour, un monsieur arrive à l'église, mon frère, etc. Hein? J'avais été chercher des gens, donc j'arrivais dans les derniers à l'église parce que j'avais été chercher des personnes. Le culte était déjà commencé, il y a d'autres qui président. Hein? Et pratiquement... Mon frère, etc. Puis il peut m'appeler mon frère, on verra après si c'est vrai. Hein. Et puis après, je ne vais pas le faire ça, hein, on verra bien après. Donc il vient au culte et tout, et puis le lendemain, je vois passer dans le village, et, oh, j'ai été voir un tel, trois d'église, j'avais déjà été voir sur le matin. Et je lui dis, tu es architecte au Luxembourg, tu as du boulot toi. Parce que moi j'avais l'entreprise, je sais bien que le boulot c'était 15-16 heures tous les jours. J'ai dit, comment ça se fait que tu as du temps pour les visiter comme ça en quatrième vitesse, un membre de l'église? Alors, il ne me répond pas. Je dis, viens à la maison. Alors, on va dans une salle où souvent il y a des gens qui passent, on se réunit. Et je dis, on va prier. Et comment se fait-il, dans une pièce comme ceci, on est nous deux, la porte est fermée, et que, tout d'un coup, tout un moment donné, j'entends des bruits alentour de nous. Qui n'entendait pas. Je vais voir dehors s'il y avait des animaux, je vais voir dans les corridors de la maison, rien. Alors je lui dis en face, comment se fait-il que tu es venu avec les démons dans notre église? Il m'a regardé. Alors, je lui ai fait dire ceci, c'est qu'il avait déjà été dans 3 églises en Moselle. Il était resté 2 ans, 6 mois, il avait tout vu, le pour et le contre, il avait fait des articles dans les journaux pour les dénoncer. Il avait 2 femmes et les enfants des 2 femmes. Et il faisait des magouilles d'argent au Luxembourg, il séduisait des personnes veuves, seules, des dames, il achetait la maison pour 4 fois rien, il faisait des plans d'architecte, il transformait, il vendait les appartements, et puis la dame, elle n'avait même pas 1 franc là-dedans, pas 1 euro. Donc c'était quoi? Un loup-garou qui rentrait dans l'église? Mon frère, mon frère. Le lendemain, je l'avais déjà prié de ne plus venir. Imaginez, parce que je suis un gros naïf, je le laisse 6 mois dans l'église. Et qu'il embrasse tout le monde. Eh bien, j'ai eu le cas, à un autre moment donné, un monsieur, fils de pasteur qui avait fait l'université à Strasbourg, qui avait un diplôme de théologie, très sympathique. Il vient, et là, je me suis fait avoir. C'est pour dire que personne n'est assez malin. Pratiquement, il connaît tout le monde et tout, et puis à un moment donné, il a dressé tout le monde contre moi. Il a mis le doute dans l'âme aux 3/4 des chrétiens. Et il était tellement adroit, il connaissait tellement la Bible, et il connaissait tellement mes défauts, en les voyant, qu'il avait raison. Apparemment raison. Sauf sur une chose, c'est qu'il voulait détruire l'église. Et il était déjà passé dans d'autres églises aussi. Alors, j'ai dû prier des nuits entières, et j'ai prié. Pourquoi? Si je m'étais défendu au pupitre devant les chrétiens, les chrétiens qui auraient pris parti pour lui contre moi, ça aurait été la bagarre dans l'église. Où était mon champ de bataille? Dans la prière la nuit. J'ai prié pour que tous les chrétiens se réveillent et comprennent que le diable avait envoyé un beau parleur, un faux docteur. Au bout de 2 mois, j'ai demandé aux chrétiens de se réunir et je leur ai dit, que pensez-vous d'un tel? Est-ce que vous croyez ce qu'il vous a dit sur moi? À un moment donné, une bouche s'est ouverte, puis 2. Alors je dis, maintenant on prend un texte, on fait une lettre, on prend des citations, on lui demande de ne plus venir. Et on lui dit qui il est lui. Et tout le monde a signé. Ça a été fini. Mais quand on a fait ça, 2 ans plus tard, on terminait une réunion fraternelle, et le repas, et voilà ce monsieur qui arrive, qui se disait chrétien, qui avait fait des dégâts dans plusieurs églises en Alsace, dans les Vosges et tout ça. Et, Bible à l'appui, hein. Le diable, c'est un artiste avec la Bible. Hein. Et pratiquement, ce qui s'est passé, c'est que dans la voiture, je venais de reconduire des personnes âgées. Je suis devenu depuis aussi âgé. Et pratiquement, ce qui s'est passé, le Seigneur dans mon cœur me disait, tu vas devoir pardonner à quelqu'un et accepter les paroles qu'il te dit. J'avais ça dans mon cœur. J'arrive dans la salle, cet homme était là, il restait 5-6 chrétiens parmi le noyau de l'église qui conversaient ensemble. Et ce monsieur était là et il dit, je suis venu pour demander pardon. J'ai entendu une prédication quelque part et je t'ai fait beaucoup de mal, Jean. Et je réponds, ben, je t'ai déjà pardonné. Mais il avait fait tellement souffrir certains des chrétiens, dont nos 3 fils, que nos 3 fils se sont dit, c'est ça les chrétiens, ils ne vont plus dans une église. Nos 3 filles vont s'engager pour le Seigneur. J'avais fait confiance à quelqu'un qui est arrivé à saper la vie de foi de nos 3 fils. Il y en a eu d'autres comme ça. Ce que je vais vous dire, c'est que vous avez une responsabilité devant le Seigneur. Une église se construit avec les vrais enfants de Dieu et pas avec les faux enfants de Dieu. Vous avez une responsabilité d'aider vos responsables dans l'église. Dans la vérité, vous devez tous aider et vous ne devez pas critiquer votre pasteur, vous devez prier pour lui, pour qu'il voie clair, et sa femme aussi. Et vous aussi, vous devez voir clair. Et vous devez apprendre à collaborer à l'œuvre de Dieu. Vous devez défendre la vérité. Paul l'a dit dans Timothée, l'Église est la colonne de la vérité. Vous allez donc voir les verts pâturages comme dans le livre des Cantiques. Vous n'allez pas vers les déserts. Vous devez créer l'Église, ça doit être un vert pâturage avec de l'eau, de la vie. Et dans l'Église, Cantique des Cantiques 3, verset 5, « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Toute personne qui avance vers le Seigneur, on ne doit pas forcer à avoir la foi. On doit voir son désir. On doit voir l'œuvre de Dieu dans cette personne qui arrive. On ne voit pas la personne. On doit regarder l'œuvre de Dieu qui se fait dans cette personne. Si c'est Dieu qui l'envoie, si c'est Dieu qui la réveille, si c'est Dieu qui met l'amour pour Christ en elle, alors il faut l'enseigner. Alors il faut la réveiller convenablement. Alors il faut lui donner. Mais ne donnez pas les perles aux cochons. Parce qu'il y a des gens qui viennent sans avoir d'amour pour Christ. Ils viennent pour détruire. C'est fort important ça. Le Seigneur Jésus nous a donné une grande responsabilité. C'est d'aimer son Église. C'est de se battre pour son Église locale. Tant qu'universel. Nous avons tous la responsabilité de l'Église et souvent nous laissons trop ce fardeau-là aux pasteurs ou aux anciens. Ça, c'est du mensonge, ça. Moi, j'ai ma belle petite vie et puis les responsables n'ont qu'à se débrouiller pour que ça tourne. C'est pas biblique, ça. C'est pas biblique. L'Église, c'est un corps. Le doigt de pied ne se moque pas de l'oreille. Hein? La main gauche ne se moque pas du pied droit. Comprenez? C'est quelque chose qui est fort important, les amis. Battez-vous pour l'épouse de Christ. Si vous montrez à Christ que vous aimez son épouse, alors il acceptera votre venue auprès de lui. Si vous n'avez pas aimé son épouse, c'est que vous ne l'aimez pas. Il faut faire très attention. Alors, continuons. Ésaïe 45. C'est pour ça que je vous demandais de prier les uns pour les autres l'autre jour, hier, et qu'on a fait un temps de silence tout à l'heure, vous l'avez fait. Alors, il nous reste, on est mercredi, il y a une réunion au soir, jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi, ça veut dire qu'il y a, dans tous ceux qui sont ici, trois groupes. Jeudi matin, j'aimerais bien que vous m'expliquiez, 5 minutes chacun, un tiers de la salle, vendredi et puis samedi, comment vous aimez l'épouse de Christ. Je ne vais pas vous demander comment vous croyez en Christ et vous aimez le Christ. Mais si vous me dites comment vous aimez l'épouse de Christ, je verrai comment vous aimez Christ. Un jour, un pasteur, un ami américain qui a été mon directeur, John Clayton, il souffrait beaucoup, sans doute, de critiques sur sa femme, etc. Et je voyais sa femme assez déprimée, qui attrapait même des maladies. Ça me faisait de la peine. J'avais bien compris qu'il se passait quelque chose, mais il était très discret. C'est un homme très discret, qui ne se plaignait jamais. Parfois, quand on se plaint tout le temps, on casse les pieds aux autres, mais quand on se plaint jamais, c'est parfois un peu un tort aussi. On pourrait dire quelque chose pour que les autres prient. Hein. Il y a une petite discrétion pour le dire, mais enfin. Et pratiquement, il m'avait lâché un jour, Jean. Quand tu construiras une église avec ceux que tu aimes et qui t'aiment, dis-toi bien ceci. S'il y en a qui te disent qu'ils t'aiment et qu'ils aiment l'église, qui n'aiment pas ton épouse, c'est qu'ils ne t'aiment pas et qu'ils n'aiment pas l'église. Ton test, c'est qu'ils aiment ton épouse. Mais les amis, ça c'est vrai. Quand je me mets à genoux et que je prie le Seigneur, devant le Seigneur, je ne suis jamais tout seul. Il m'est arrivé plusieurs fois, après plusieurs années de mariage, que dans la prière, le Saint-Esprit me disait ceci, « Tu n'es pas tout seul. Ta femme, même si elle est à la cuisine autre part, elle est à côté de toi, devant moi. Ne viens pas tout seul devant moi. Ne viens pas tout seul devant moi. » Eh bien, pour un chrétien, il ne doit pas venir tout seul devant le Seigneur. Regardez Daniel à Babylone, il sortit dans sa chambre, il se tourne vers Jérusalem, il priait pour tout son peuple. Jamais. Alors, arrêtons l'individualisme européen, occidental, c'est un casse-tête, c'est du poison. Nous faisons partie d'un peuple, nous devons avoir l'âme d'un peuple. Continuons. Ésaïe 45, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Vous avez vu, mes enfants, hein? On n'est pas tout seul. C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toute leur armée. Donc l'armée des cieux, c'est les anges, hein? C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. J'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville. Il libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Donc, quand Ésaïe écrit, 760, 780 avant Jésus, Cyrus n'est pas né. Cyrus va devenir roi en 536. Il vient de l'Iran, de la Perse, l'Afghanistan. Hein. Il envahit, grâce à son général Darius, il envahit la Babylonie. Et un an après, il s'installe. Il fait. Quand Darius a maté tous les mauvais, enfin ce qu'on appelle mauvais, il vient, il se monte, il est le roi. Eh bien, ce roi qui n'est pas encore né est déjà programmé pour rebâtir. Il libérera mes captifs sans rançon ni présent. Donc Dieu a programmé. Dieu a programmé un âne dans Zacharie. Et 6 siècles après, quand Jésus dit « Allez à telle place chercher l'âne », il rentre dans Jérusalem sur l'âneau. Et Dieu connaissait l'âneau 6 siècles avant. Donc la mère de l'âneau, le père de l'âneau, est descendant jusqu'à l'âneau de Jésus. Dieu connaît tout. S'il connaît les ânes, il nous connaît aussi alors. Parce qu'on fait souvent l'âne et la bourrique. Hein? Y-on. Alors, les amis, Dieu connaît tout et a dressé son programme. Pour toute l'histoire. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, ceux des Sabéens, donc les Arabes, l'Arabie, à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Je ne me suis jamais rendu compte que les Arabes pouvaient être grands. Mais je fréquente pas mal de familles arabes, musulmanes, je vais chez eux, hein, Mylène. Chez Sonia, là, qui est décédée, qui a eu un accident, les frères, les caïds. Alors, c'est des armoires à glace. Hein. Oui, c'est les Sabéens, ça. Hein. Passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront en Chine, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que toi, que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Voilà que des gens... Sabéens disent, tu es un Dieu qui te cache, il le désire. Alors, par un musulman qui avait été rejeté par sa femme, trompé par sa femme et tout, qui avait vécu 15 jours dans les bois, j'ai appris à connaître le reste de la famille. Entre-temps, cet homme va un jour être baptisé, il lit la Bible et tout, et je suis patient, je ne cours pas trop vite pour le baptiser, je vais voir si ça tient la route, et pratiquement... On est tombé dans la famille de sa sœur et je vais à table avec eux, ils m'invitent à table. Je ne sais pas si Marilyn était là et pratiquement le grand, le plus caïd, il s'appelle, il dit, pour une fois que je tiens un chrétien, on va discuter. Pourquoi? Parce qu'il a été sur les chantiers, dans les entreprises. Il y a des gens qui se disent catholiques, chrétiens. Il a dit, ça c'est pas chrétien. Mais je sais que vous avez aidé mon oncle, vous l'avez secouru, était dans la misère, vous avez fait tout ce que vous pouvez, mon oncle a parlé, je sais que vous êtes un chrétien, vous. Alors il me dit, je veux bien moi que Jésus meure sur la croix pour moi, mais ça c'est trop facile. Qu'est-ce que ça a changé dans celui qui dit ça, qui est chrétien? Je réponds, mais ça c'est pas des chrétiens, s'il n'y a rien de changé. Si quelqu'un croit que Jésus est mort pour ses péchés sur la croix, il renonce au péché et il vit avec Jésus dans la sainteté. Alors ça va, qu'il me dit. C'était aussi sec, les yeux dans les yeux. Et je vous garantis qu'on n'a pas le choix. Ou on joue la comédie ou on est dans la vérité. Il n'est pas encore chrétien. C'est le plan de Dieu, qu'il soit chrétien ou pas. Je n'ai pas encore donné un coup de téléphone pour savoir. J'ai juste la conviction qu'un serviteur doit offrir la parole pour qu'il puisse devenir chrétien. Mais je ne fais pas la boule de cristal pour savoir s'il va devenir chrétien. En tout cas, il dit des choses vraies. Il dit des choses profondes. Eh bien, vous voyez dans ce texte, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il y a des gens qui savent très bien où est le vrai Dieu. Ils sont dans la religion, ils ont peur de la quitter. Une famille arrive durant la réunion de prière le samedi soir en disant, il y a une dame marocaine, elle nous met des pierres et des plumes sur la porte, on n'a que des ennuis tout le temps. Est-ce que vous ne pouvez pas prier pour nous ? Je veux bien, c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps. Alors, nous avons prié, c'était fini. Après, 3-4 garçons veulent que madame est enceinte d'une petite fille. Trois garçons, oui. Une petite fille. Mais le docteur gynécologue dit, vous savez, elle va être mongole, trisomique. Il faudrait avorter. Ils disent, nous, on ne voudrait pas avorter. On ne voudrait pas avorter, on n'aime pas ça, c'est pas... Alors, je dis, nous sommes d'accord avec vous. On ne peut pas avorter. Je trouve plus de gens dans l'islam que chez les autres qui sont d'accord de ne pas avorter. Alors. Attention. Alors, pratiquement, ce qui se passe, nous ne savons pas ce que nous devons faire. Écoutez, mes amis, laissez-nous prier 3 jours, on viendra chez vous, on vous dira quoi. On y a été, et puis on leur a dit, gardez votre petite fille, Dieu s'en occupe. Il la bénira, on priera pour vous, encore les autres jours, et on sait que Dieu aime votre petite fille autant que nous. Et la petite fille a 16 ans maintenant, elle est magnifique, elle n'a aucun problème de santé, elle n'est pas trisomique. Donc, et c'est aussi quelqu'un qui est dans l'islam. Combien de fois ? Donc, ce texte nous montre bien que Dieu leur est caché, mais qu'ils savent qu'il est là, qu'il est caché, et qu'il faut aller chercher où, là où il est. Un jour, on m'appelle pour quelqu'un qui se roule par terre, qui a des convulsions. Même à la mosquée, il priait, il n'y avait rien. J'y vais, je fixe rendez-vous sur le parking devant la mairie, dans la ville où je vais souvent évangéliser, et puis je dis, en public, pas dans une salle, on ne sait jamais, avec les manifestations démoniaques, et puis il était sur un banc, moi sur l'autre. Je commence à parler, il se roule par terre, il écume de rage et tout, je demande simplement au Seigneur Jésus, s'il veut bien, d'arrêter ces démons-là. Il se redresse, il s'assied, comment que ça se fait que... Et puis il me dit, à la mosquée, ils n'ont rien pu faire et tout ça. Mais c'est Jésus qui arrête les démons. C'est pas la mosquée. C'est pas moi non plus. Et puis il me dit, ah, je vous dois de l'argent, je vous dois donner de l'argent. J'ai pas besoin de ton argent, mon ami. Dieu est assez riche pour m'aider. Même si j'ai pas trouvé. J'ai pas besoin de ton argent. Ne mélange pas Dieu et l'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'était aussi un musulman qui vivait avec l'argent des prostituées, qui profitait de plusieurs prostituées, qui était dans l'iniquité, et sa mère faisait la sorcellerie. Un jour, je le retrouverai sur le chemin. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas abandonner une âme perdue, mais il faut la mettre dans la prière. Alors, vous mettez, si vous voulez bien, tout le monde que vous rencontrez dans la prière. Vous n'en écartez aucun. Et vous dites, Seigneur, accomplis ton plan. Et regardez ici, nous voyons dans Isaïe, verset 16, le verset 15, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu, créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a fermée, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Ah, puisque Dieu n'a point parlé en cachette, où est-ce qu'il a parlé ? Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Hébreux. Donc, si Dieu dit qu'il n'a pas parlé en cachette, c'est qu'il a parlé ouvertement. S'il a parlé ouvertement, on ne va pas dire qu'il nous a laissés dans le péché et dans la misère. Donc, nous avons des responsabilités. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, s'est assis à droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Un jour, on a invité chez l'imam et on va manger. Toute la famille. Naturellement, on a mangé des tripes de mouton, etc. Tous des trucs. Ils avaient tous envie de vomir, les enfants, ma femme. Et l'air de rien, ils me refilaient dans mon assiette. Et comme moi, j'étais le pasteur, hein, et que j'étais vraiment ami avec cet imam. Hein. Et il avait plusieurs bibles. La bible avec les notes de MacArthur, de Second, une en arabe, et une en français, une en turc. Et tout ça, il avait dans son grenier, il allait la lire, et il disait à sa femme, parce qu'elle était fort copain avec des durs dans la mosquée, je vais mettre de l'or dans le grenier. Il allait lire la Bible. Alors, pratiquement, notre imam en question, un jour, il se trouve qu'il parle qu'il faut pardonner et s'aimer les uns les autres. Alors, dans la mosquée, grande bagarre à la sortie. Pif, paf, boum, on le frappe, trois clans se forment. Un coup de barre de fer, de tressonneuse. On n'a jamais parlé comme ça à la mosquée, qui n'est plus notre imam. Ben oui, parce qu'à certains moments, il était venu au culte chez nous, il écoutait, et lui, tout brave, il avait vraiment un bon cœur pour Dieu, cet homme-là. Moi, je l'aimais comme un frère, hein, même qu'on n'était pas encore frère. Alors, pratiquement, il a parlé, quoi. Ça débordait de son cœur, mais ça a bardé. Alors, en Belgique, il y a des cours de religion musulmane, protestante, catholique, morale laïque, etc., payé par l'État, de l'âge de 6 ans à 18 ans, 2 heures par semaine. On doit choisir. Et pratiquement, ce qui se passe, est juif aussi. Mais il avait des cours. Mais un jour, ils ont décidé, tout le monde, de le discréditer, surtout ceux qui avaient été à la Mecque. Ceux qui sont hatch, ils mettent un chapeau différent. Et alors, ceux-là sont pleins de présomption et ont cassé du sucre sur lui. A inventé des insultes en disant qu'il allait dans la forêt avec les jeunes femmes turques pour aller coucher avec, etc. Et pratiquement, ce qui se passe, il faisait de la dépression, et puis les parents musulmans retiraient les enfants des cours. Donc il perdait le boulot, et même, ils étaient venus dans l'école, dans les corridors, lui casser la figure. Donc le brave homme, c'est une dame de l'église qui me dit, tu sais, elle cite son nom, il est en train de souffrir terrible, tu devrais aller le voir. Et une dame catholique du village à côté aussi. J'y vais. Je dis, écoute, je te connais, tu n'as rien fait de tout ça. Ah, alors il appelle sa femme, tu ne veux pas le dire? Oui. Alors, on priait, et c'est l'heure de la prière. Et il va se mettre là, j'attends. Hein. Et puis, je lui dis après, qu'est-ce qui est de plus important pour toi, pour tous les gens de la mosquée et de ta famille? Et il me dit, lui, un musulman, hein, la purification des péchés. Vous avez déjà vu un musulman qui dit ça, vous? La Bible dit, il a fait la purification des péchés. C'est Jésus, là. Mais lui, où est-ce qu'il a été chercher ça? C'est Dieu qui lui met à cœur. Il veut la purification des péchés chez les musulmans. Et lui-même, je dis, tu sais, toutes tes prières que tu fais, là, 5 fois par jour, et tout, même aller à la mosquée, etc., ne vont jamais purifier les péchés. Parce que la purification des péchés est déjà faite à la croix. Elle a été faite à la croix. Jésus est mort pour tes péchés et pour ceux de ta mosquée. Il m'a supplié, Jean, j'aimerais bien te quitter mon métier d'imam après. Est-ce que tu n'as pas une place dans l'entreprise? Mais je venais d'arrêter l'entreprise, moi, elle continuait sans moi, pour faire l'institut biblique. Ibrahim, je ne peux pas t'offrir un travail, je ne suis plus le gérant de la société. J'étais triste, parce que si j'avais été gérant de la société, je le prenais direct. Il quittait le métier d'imam. Hein. Il avait compris. Vous voyez, les souffrances, ils sont surveillés entre eux, l'UMA, la communauté, autocontrôle sociologique, psychologique et diabolique, qui fait que tout le monde est prisonnier de l'idolâtrie. Il faut faire attention. Et pourtant, ils cherchent Dieu. Et ils ont l'impression que Dieu se cache. Ils ont l'impression que le Dieu de l'islam ne leur suffit pas. Et Dieu se cache. Vous vous rendez compte quelle responsabilité vous avez de leur dévoiler le Dieu qui leur est caché? Quand Paul est à Athènes et qu'il parle aux Athéniens, Ô vous, hommes, fameux Athéniens, il leur parle du Dieu qu'ils ne connaissent pas, qui est inconnu. Vous avez plein de gens aujourd'hui qui sont dans l'inconnu. Ça va ? Vous êtes dans un monde qui est complètement à refaire. Jean, chapitre 5. Normalement, il y a une interruption, vous me ferez signe. J'ai déjà fait de l'heure. Dans une ? 10 minutes, ça va. Ce que je veux dire, je ne connais pas tout, je ne veux pas vous donner l'impression que je sais tout, je vous fais la leçon. Simplement, ce que j'aime bien, c'est que vous soyez boostés vers ceux qui cherchent Dieu caché. Boostés. Ne dormez pas, ils vous attendent. Si on était venu me trouver les évangéliques, pas à 42 ans, mais à 16 ans ou 18 ans, je faisais l'institut biblique, avec l'énergie que j'avais, j'aurais trouvé Marie-Hélène plus tôt aussi, et hop, on aurait fondé plusieurs églises. Ben oui, avec l'énergie qu'on se paye encore maintenant, vous n'imaginez pas celle qu'on avait étant jeune. Hein. Avec le Seigneur, les énergies sont décuplées. Alors, Jean chapitre 5, verset 36. Jean chapitre 5, verset 36. Quand je vois le tempérament de certaines personnes ici, il y en a qui sont plus doux, plus passifs, plus hésitants, plus pressifs. D'autres, ça pète, hein. Boum, inclémence, boum. Hein? Eh bien, pratiquement, il y a tous les tempéraments. Dieu choisit tous les tempéraments. Il faut mélanger tout ça, l'unir par le Saint-Esprit, et boum. Vous avez vu la chanson hier, Jean l'Apocalypse, boum. Pas prêt d'oublier celle-là. Jean chapitre 5, verset 36. J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Les œuvres même que je fais. Quand Jésus a parlé au cœur de cet imam, quand Jésus parle à ce bonhomme-là où on va manger, pour une fois que j'ai un chrétien devant moi, je le tiens, hein, il faut qu'il me réponde. C'est quoi ? Dieu agit. C'est Jésus qui fait ça. Et moi je suis là, je dis, oui d'accord Seigneur Jésus, il faut que je réponde. Donne-moi la sagesse de répondre. Je ne suis pas le patron de Jésus, moi c'est lui qui est le patron. C'est lui qui dirigeait les opérations. Hein. Alors, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ici, Jésus affirme une chose. Tu veux me connaître ? Lis les Écritures. Et incline-toi, hein ? N'y va pas avec tes idées à toi. Reçois ma pensée. Laisse faire mon esprit en toi. Hein ? Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. La Tsunamite avait l'amour de Dieu en elle. Ibrahim avait l'amour de Dieu en lui. C'était plus qu'un musulman, ou c'était déjà plus un musulman. Mais pour nous, ici, est-ce que l'étiquette de chrétien nous suffit ? Le fait d'aller au culte nous suffit ? Vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Regardez bien à la fin du premier siècle. Quand Jean a des visions pour les sept églises, la première église, la plus grosse, Éphèse, repens-toi d'où tu es tombé, car tu as oublié ton premier amour. La Odyssée, au chapitre 3, voici je me tiens à la porte et je frappe, si tu entends ma voix et que tu m'ouvres, j'entre chez toi. Je mange avec toi, hein, et toi avec moi. Donc Jésus est derrière la porte, il n'est plus dans l'église. Il n'est pas dans l'église. Pourquoi est-ce qu'il n'y est pas ? Parce qu'on s'est moqué de lui. L'église lui appartient. Mais ce qu'on a fait, l'église c'est nous. Ça nous appartient. C'est nous les patrons de l'église. Si ce n'est pas Jésus le patron de l'église, ça c'est foutu, ce n'est pas une église, il est dehors. Alors, faisons attention, parce que c'est facile de dire les juifs avaient ce problème-là, c'est un problème inhérent à l'être humain. Notre chair est foncièrement malhonnête vis-à-vis de Christ. Il faut que tous les jours, elle soit ensevelie en Christ, crucifiée en Christ, tous les jours. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient à son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Ça arrive dans beaucoup d'églises, hein? Et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Après l'Institut, 3 ans, je vais voir John Clayton. Et je dis, John, dis-moi ce que tu penses de moi, qu'est-ce que je peux faire après l'Institut biblique? Parce que j'avais vraiment l'impression d'être un lépreux, un ancien prêtre catholique, etc., tout le bazar, méfiance dans le milieu évangélique. Hein. Et puis alors, il y avait tellement de SDF et de pauvres, de réfugiés chez nous, ouais, certains disaient, ils font des œuvres pour être sauvés. Alors on avait cette étiquette, on avait pas mal d'étiquettes sur nous, ça ne nous faisait pas le bien, hein. C'était une dure épreuve. Mais je dis à John, j'ai vu votre tête à un certain moment qui doutait et vous vous demandiez ce que je faisais à l'Institut. Ben oui, oui, oui. Il y a eu tellement de critiques, etc. Alors, John, qu'est-ce que tu veux? Ben on a prié entre les pasteurs. Commence une église, commence à zéro. Commence à zéro. Ben oui. Là, tu connais toute la région, la France, la région, il n'y a pas eu d'église évangélique là. Enfin, moi j'avais vu les annonces, église à Paris, église partout, j'avais vu qu'il y avait une maison, qu'il y avait des clubs de jeunes, et oh, j'avais envie d'y aller, quoi. Ah, oh, j'étais contrecarré. Mais John, pourquoi est-ce que tu me dis, il y a des annonces, il y a des églises qui demandent pour que je ne sois pas y aller? Il me répond ceci. Sur le moment, je ne comprenais pas. Tu ne dois pas y aller, tu vas te casser la figure. La plupart sont mortes. Tu vas y laisser ta peau. Il riait, Thierry, lui. Il m'a dit ça, vous croyez que je me marrais? Que des églises évangéliques sont mortes. Alors, ma femme et moi, on va voir un pasteur du côté de Liège, une grosse tête, un exégète et tout, et on lui demande conseil pour servir le Seigneur. En sortant de chez lui, on était bien reçus, hein. En sortant, on monte dans l'auto, il nous dit, c'est quand même bizarre, nous les évangéliques, on a la Bible en main, ça fait 30 ans que je suis évangélique, mais on n'a aucune puissance. Je ferme la porte, je dis, Mylène, on va prier, on va tenir le coup, va. Où est-ce qu'on a été mettre les pieds? Dans quoi est-ce qu'on est rentré? On croyait que en allant chez les évangéliques, allez, ça va péter la flamme, c'était l'amour de Christ. L'amour de Christ, allez, les amis. Je ne dis pas ça pour me moquer des églises évangéliques, mais purée, ça, c'est dur. C'est dur. Alors, regardez bien ce que Jésus dit au verset 45. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Donc Jésus n'est pas là pour accuser les églises. Quand vous voyez les 7 églises d'Apocalypse, il envoie tout un message et dit. Ce que dit l'Esprit, que l'Église l'entende. Celui qui vaincra sera avec moi, et puis etc. Donc, il propose la victoire, il propose d'écouter l'Esprit, il propose à l'Église de se remettre en ordre. Vous vous rendez compte que Jésus n'a pas d'esprit d'accusation? Il n'y a que le diable qu'il y en a un sur les églises. Quand vous voyez des églises avec des problèmes, dites-vous bien que Christ l'aime et qu'il faut prier pour cette Église-là. Et pour soi-même aussi, parce qu'on est aussi une cellule d'une église. Voilà. Vous avez compris? On arrête pour le moment. Ce qu'il y a, si Jésus n'accuse pas les églises, que Jésus c'est le temps de la patience, qu'après ce jugement, qu'est-ce qui nous empêche d'intercéder pour les églises et de les aimer? Si on est trop faible dans la foi et la prière, oui. parce qu'on s'écoute soi-même, on est empêché par notre péché, mais pas par Jésus. On reprend tout à l'heure. Pour le Dieu qui se cache,